Le Conseil de la paix, Board of Peace, était initialement une initiative lancée par Donald Trump fin 2025 pour superviser la reconstruction de la bande de Gaza après le cessez-le-feu. La Maison-Blanche a cependant récemment prétendu étendre son mandat pour en faire une organisation internationale plus large visant à promouvoir la stabilité et la paix durable dans les zones de conflit mondial. Environ 60 pays auraient reçu des invitations. Une cérémonie de signature est prévue jeudi 26 janvier 2026 à Davos, en marge du Forum économique mondial. Quelques acceptations ont été confirmées, celles d'Israël, du Maroc, des Émirats arabes unis, de la Hongrie, de l'Argentine, de l'Égypte. Des personnalités comme Tony Blair, Jared Kushner, Marco Rubio et d'autres figurent au comité exécutif de l'organisation. On a assisté à des refus ou des réserves sur cette nouvelle proposition. La France, d'Emmanuel Macron, plusieurs autres pays européens et la plupart des nations restent en réalité silencieuses dans l'expectative. La Russie de Vladimir Poutine a été invitée, cela a été confirmé par le Kremlin, mais n'a pas encore répondu publiquement, et la Chine en a fait de même. Alors, Donald Trump cherche-t-il à renverser l'ONU, et dans quel but ? Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 21 janvier 2026, il est 21h36 et nous sommes en direct pour une émission spéciale que j'ai tenu à faire parce que le sujet me paraît extrêmement important et comme je ne sais pas encore si on aura un live public cette semaine ou ça sera un super live privé, je préfère en parler. De toute façon, j'étais pressé d'en parler parce que ça me paraissait très intéressant. Alors c'est comme ça, je pense que vous n'en êtes pas fâché. Cependant, c'est le jour normalement où j'enregistre le bulletin. Alors pour que ne soient pas perdus les fans du bulletin, j'essaierai de faire des petits, de prendre 5 minutes avant la fin pour souligner un certain nombre d'actualités qui sont quand même importantes et qui me paraissent devoir l'être. Alors pour commencer cette émission spéciale et pour vous faire connaître un peu aussi les raisons pour lesquelles j'ai été très motivé à la faire, je voudrais repartir de petits tweets que j'ai fait l'autre jour et vous lire un extrait de ce bouquin qui est ici, voilà, qui en fait était, qu'on a publié avec Léo, ça doit être il y a 2 ans, c'était en 2024 je crois, mais qui en réalité j'avais écrit en 2008, quelque chose comme ça. Le texte, je l'avais fait un été, ça devait être 2008 ou 2009. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis aperçu en le relisant, en voyant ce Conseil de la paix, ça a fait un petit peu tilt. Et je voulais vous montrer un petit extrait qui est le suivant. Alors il faut savoir que dans le bouquin, en fait, on est en 2035 et le président américain, Alexander Tcharan, veut créer une espèce de super-État au-dessus du gouvernement américain qu'il préside, mais pour en fait intégrer plus politiquement le monde. Dans l'idée, on était au lendemain d'une troisième guerre mondiale, si vous voulez, et l'Amérique règne sans partage sur le monde, et donc il veut faire ça. Alors voilà comment c'était. Dans ce petit extrait, la seconde doctrine dite de l'agglomération consistait à préserver l'État fédéral américain tel quel et à fédérer, bien que ce terme fût soigneusement évité au cours des discussions, les États vassaux de l'Amérique autour de ce dernier. Un tel projet s'inspirait évidemment du rêve qui avait été celui de l'Union européenne, tout en ayant plus de chances d'aboutir, une primauté étant reconnue aux États-Unis. Les délégations des autres États acceptèrent cette primauté de principe, sans doute parce que les statuts de la Grande Union leur laissaient espérer une prise réelle sur la direction des choses en pratique. En définitive, la charte institue un Conseil de la Grande Union, composé de 100 légats élus au sein des pays membres, le président de ce Conseil devant être élu par les légats et son élection ratifiée par des chefs d'État des 2/3 des pays membres. En cas de vacance de la fonction, le président des États-Unis devait occuper le poste jusqu'à élection ratifiée de nouveau président du Conseil. Théoriquement donc, la présidence de la Grande Union était accessible à un non-américain, ce qui permit à Ciaran de vaincre les dernières réticences quant à, etc. C'est un extrait fictif de pastiche, si vous voulez, d'un livre sur l'histoire de l'Amérique qui aurait été écrit au XVIIe siècle, en gros. C'est pour ça que je m'étais amusé à rédiger ce petit roman. Alors forcément, quand l'autre jour, quand je suis tombé là-dessus dans le Figaro, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Je vous lis l'extrait. Le Conseil de paix est une organisation internationale qui vise à promouvoir la stabilité, à rétablir une gouvernance fiable et légitime et à garantir une paix durable dans les régions touchées ou menacées par des conflits. Alors ça, c'est un texte de 8 pages qu'on va prendre ensemble tout à l'heure. On va le regarder en détail. Mais ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie. Donald Trump sera le premier président du Conseil de paix, dont les pouvoirs prévus sont très étendus. Il est seul habilité à inviter d'autres chefs d'État et de gouvernement et peut révoquer leur participation, sauf en cas de veto par une majorité des deux tiers des États membres. Ainsi, cela ressemble à une forme de présidence à vie. Il peut se désigner un successeur à tout moment. Il ne peut être remplacé qu'en cas de démission volontaire ou d'incapacité, etc. Je vous passe la suite. Et forcément, quand j'ai vu ça, du coup, je me suis empressé de le dire sur Twitter. C'est exactement ce que je prévoyais. Et ce qui est amusant, c'est que ce que j'avais prévu dans ce bouquin, ça venait pas de nulle part. C'était tout simplement, j'avais essayé de me poser la question, qu'est-ce que ça serait une transition impériale, façon ce qui s'est passé à Rome avec Auguste, mais à l'ère moderne et en remplaçant Rome par les États-Unis. Et je trouve ça très amusant qu'en ayant fait cette projection-là, en ayant imaginez ce biais-là, on se retrouve aujourd'hui avec un Donald Trump qui propose la même chose. Alors ça ne préjuge pas du fait qu'il va y arriver tout de suite, d'autant plus qu'à la base je pensais que ça arriverait 10 ans plus tard, mais je trouve ça extrêmement intéressant, en tout cas c'est marrant comme point de départ, pour essayer d'étudier et de mettre en perspective ce document, parce qu'encore une fois, on va entendre énormément, je me perçois que je ne vous l'avais pas affiché. C'était ça mon tweet. Enfin, je vous l'ai lu. Vous avez beaucoup de gens qui commencent d'ores et déjà à se demander qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est ridicule, c'est absurde, Donald Trump cherche à remplacer les Nations Unies, alors c'est fort probable, mais qui ont l'impression que c'est une espèce de lubie, que c'est pas quelque chose de profond, encore une fois, puisque c'est toujours la même erreur, hein, qui est de considérer que finalement Donald Trump n'est que Donald Trump et n'est pas l'émanation d'un mouvement beaucoup plus profond. Tout comme ils ont fait l'erreur à l'époque de considérer que Vladimir Poutine était un fou tout d'un coup, ou un type suicidaire ou malade, et pas quelqu'un qui était aussi l'expression d'un mouvement de fond. Et comme vous savez qu'ici on étudie les mouvements de fond, justement, ce qui vous explique pourquoi tout d'un coup vous vous retrouvez face à un Donald Trump, eh ben c'est particulièrement intéressant. Voilà. Et c'est d'autant plus intéressant pour moi que tout va dans le sens des choses telles que je les avais anticipées. Parce qu'en parlant plus d'un point sur lequel... sans doute les points sur lesquels le modèle a le moins évolué depuis 20 ans. Alors, pour essayer de remettre tout ça en perspective, par contre, et vous expliquer cette dynamique-là, j'ai ceci de commun avec Vladimir Poutine, que dès que je commence à traiter le sujet, je ne peux pas m'empêcher de revenir 1000 ans en arrière pour... il aurait dû être prof d'histoire, en fait. On ne va pas revenir 1000 ans en arrière, mais pour comprendre quand même ce qui est en train de se passer depuis en tout cas 500 ans. Parce que en fait, comme je vous l'ai déjà expliqué, dans le système de construction nationale américaine, on est à l'équivalent du XVIIe siècle. Voilà, de ce qu'était la France, en tout cas, au XVIIe siècle. C'est-à-dire la transition vers l'absolutisme. Bon. On n'est pas exactement au même stade, ou en tout cas à un stade aussi avancé à l'échelle mondiale, mais je trouve ça extrêmement intéressant d'y revenir pour comprendre justement à quel stade on en est. Parce qu'en fait, il y a un petit décalage, et la construction de l'État mondial ou de l'Empire, si vous voulez, que bâtissent les Américains à l'échelle mondiale, est un peu en retard sur leur construction nationale, mais pas complètement. Parce qu'en fait, ils ont commencé très rapidement à s'étendre. En fait, l'histoire de la croissance américaine, la moitié de l'histoire américaine s'est faite presque dans l'Empire, quoi, à partir du XXe siècle. Alors, on va voir quelques petites bases, repartir du début. Alors je vous ai pas recherché de truc là-dessus, on va essayer de vous le faire. En fait, pour moi, comme vous savez qu'un état-nation, enfin en tout cas une construction impériale, ça se fait toujours pareil, l'état-nation c'est uniquement l'aboutissement final de ce qu'est une construction nationale d'un empire qui a suffisamment vieilli. Mais en fait, de base, tous les empires se développent, on va dire, de la même façon. Alors, j'essaie de vous afficher ça. On a trouvé ça, c'est une bonne carte, ça, pour voir, parce que c'est à la bonne époque que je vous le montrais. L'État, la première version, on va dire, toute première version de ce qu'on peut appeler un État mondial, ou en tout cas un proto-État mondial, ce que j'appellerais tout simplement la phase féodale de l'État mondial, c'est pour moi l'Empire britannique. L'Empire britannique, et vous comptez à partir de 1763, on va dire, c'est-à-dire c'est la fin de la guerre de 7 ans. Alors à ce moment-là, ils n'avaient pas encore toute l'Afrique, ils n'avaient pas l'Empire des Indes, enfin ils avaient des morceaux d'Inde, mais pas autant que ça. Ils avaient encore les colonies américaines, même s'ils les ont perdues 20 ans plus tard, mais grosso modo, c'était l'État, si vous voulez, l'Angleterre, qui avait, en tout cas, à l'échelle du monde, qui était la première puissance mondiale. La France était juste derrière, elle n'avait pas totalement renoncé, mais elle venait de perdre la guerre de 7 ans, et grande perdante de la guerre de 7 ans, puisqu'elle avait perdu tout son espace colonial en Amérique et aux Indes, puisque vous savez que jusqu'à la guerre de 7 ans, l'empire colonial aux Indes était plus vaste côté français que côté britannique. On a tout perdu pendant la guerre de 7 ans. Donc ce qui s'est passé ensuite, c'est que vous avez... alors pourquoi je parle de phase féodale? Alors c'est vraiment le tout début, hein, c'est le proto-truc, c'est-à-dire que vous commencez à avoir une puissance européenne qui se dégage, véritablement au-dessus des autres, à ce moment-là. Et surtout qui va le faire durablement, parce qu'on avait déjà vu, l'Espagne très puissante aux Amériques, etc., mais ça n'avait jamais été au niveau du Royaume-Uni. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? La première étape véritablement importante, ça va être les guerres napoléoniennes. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là que, pour ainsi dire, on a véritablement un ordre féodal, c'est-à-dire qu'on a une primauté britannique qui se confirme. C'est-à-dire que c'est le Royaume-Uni qui est à la tête de tous les coalisés, c'est lui qui suscite plusieurs coalitions contre la France, et c'est au sortir de cette guerre-là qu'il n'y a plus de question entre savoir qui est le premier de la France et du Royaume-Uni, c'est le Royaume-Uni, à la fin des guerres napoléoniennes. Et à partir de là, vous avez le Royaume-Uni qui va être l'arbitre à l'échelle du monde. C'est pas encore une puissance qui est capable de s'imposer à n'importe qui, mais ça lui permet d'être le premier d'entre les pairs, quoi. Le primus inter pares, si vous voulez. Un peu comme était le roi de France au tout début, ou jusqu'à Louis VI le Gros, par exemple. C'est-à-dire, c'est un seigneur parmi les autres, mais qui est quand même revêtu d'une espèce d'autorité importante. On se tourne vers lui quand il y a des problèmes, il a tendance à intervenir un peu partout, à se comporter en gendarme, même s'il n'a pas forcément la capacité d'écraser tous les autres. Et le Royaume-Uni ne l'avait pas. Le Royaume-Uni maintient cet ordre jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, et il tente de transformer un petit peu l'essai, on va dire, et il commence à faire évoluer le système vers autre chose, à travers à la fois la Société des Nations, qui avait été créée sur l'idée des États-Unis, mais bon, les États-Unis s'en tenaient en retrait, donc le Royaume-Uni était la première puissance à l'intérieur de ce système-là. Et en plus, c'est très amusant parce que c'est dans les années 30 que le Royaume-Uni a commencé à essayer de faire un petit peu la même chose que Donald Trump fait depuis un an avec ses tarifs, vous savez ça, je renvoie à la vidéo que j'avais faite là-dessus, la transformation en aire concentrique autour des États-Unis, du monde, avec les accords d'Ottawa qui établissaient qui était une tentative d'intégration économique accrue de l'Empire britannique autour du Royaume-Uni. Le problème du Royaume-Uni, c'est que il était déjà trop petit, le cœur était déjà trop petit par rapport à une puissance industrielle comme les États-Unis pour rester, avoir toujours la prétention d'arriver à un niveau de souveraineté supérieur à l'échelle mondiale. Et en plus, bien sûr, il y a eu la Seconde Guerre mondiale qui a totalement enterré la puissance britannique et qui a permis à la puissance américaine de se déployer. Mais si vous faites l'analogie avec ce qui s'est passé dans un certain nombre de constructions nationales, à l'échelle du monde, et dans cette perspective de la création d'un empire mondial, et d'un État mondial, à l'échelle du monde, ça correspond uniquement à un changement de dynastie, en fait. C'est un équivalent de changement de dynastie. Avant, c'était le Royaume-Uni, ça passe aux Américains, mais en réalité, les Américains héritent immédiatement quasiment de la totalité de l'Empire britannique. C'est-à-dire que dans le monde de 1945, avec précisément la création de l'ONU, je vais y revenir, vous avez les États-Unis qui remplacent comme hégémon l'Empire britannique, qui reste l'allié des États-Unis, mais vous avez cette transformation qui se fait. Alors vous avez, on va dire, une grande puissance qui n'avait jamais été intégrée par le Royaume-Uni, au contraire, qui était resté son grand rival et son principal rival pendant toute l'histoire de l'Empire britannique, qui était l'Empire russe, puis soviétique, et qui a fini par être vaincu par les États-Unis en 1991. De quelque manière que ce soit que vous entendiez la façon dont cette victoire, c'est le cas, c'est-à-dire c'est celui qui a survécu. Hein. Dans l'autre cas, c'est la figure, il y a une victoire par KO de toute façon, même si vous avez, ça vient pas forcément de votre action directe. Même si, si vous faites de la boxe et que l'autre fait une crise d'épilepsie, bon, alors certes, ça perd un petit peu en gloire, mais il reste que c'est vous qui avez gagné, quoi. L'autre est forfait. Donc à partir de 1945, on est dans une situation très intéressante. On est en fait déjà dans ce que j'appelle la mutation oligarchique. C'est-à-dire que vous commencez à avoir des instances centrales, et notamment une instance de représentation à l'échelle globale, qui sert à légitimer le pouvoir du suzerain, sur lequel il peut s'appuyer, mais en dépit duquel il peut aussi agir, bien sûr. C'était le cas, c'est l'équivalent, si vous voulez, des états généraux qui ont été mis en place par Philippe le Bel, qui servaient à assurer le pouvoir du roi, notamment sur les questions successorales, mais également sur les questions d'impôts. C'est-à-dire ça permet d'imposer des impôts. Et les premières formes d'imposition des États-Unis, ça a été avec les accords de Bretton Woods, puis avec le dollar aussi Bonclore, et puis ensuite avec le détachement de ça par Nixon. C'est la première forme d'imposition mondiale via l'inflation, mais je veux dire le droit de battre monnaie exclusif de la part du roi de France, c'est précisément un gain qu'avait eu Philippe le Bel. Donc dans l'état historionomique, si vous voulez, de l'état mondial américain, à ce moment-là, la transition oligarchique, on va dire, elle se fait effectivement en 1945. C'est intéressant parce que si vous avez suivi les précédentes émissions que j'ai faites ou que vous avez lu Alcizars, vous vous souvenez que la transition oligarchique des États-Unis eux-mêmes, c'est-à-dire à la transformation de l'État américain à l'intérieur, elle se fait 50 ans plus tôt. C'est-à-dire au tournant du XXe siècle, avec la création du FBI, la création de l'Internal Revenue Service qui permet de prendre l'impôt sur le revenu fédéral. Et donc c'est le même équivalent, sauf que ça arrive donc un peu en avance dans les États-Unis eux-mêmes qu'à l'intérieur, à l'échelle du monde. Mais c'est très intéressant parce que c'est un décalage qui est assez bref, quoi. Ça, c'est même moins d'un demi-siècle en réalité. Donc c'est relativement aligné. Ce qui vous annonce que si on est déjà en transition absolutiste à l'intérieur des États-Unis, c'est pas étonnant qu'il y ait une recherche de transition absolutiste aussi à l'échelle mondiale. Mais je vais y revenir. Donc on est en 1945, on a une transition qui se fait, et qui est très importante, ça se fait à l'occasion d'une guerre. Ça se fait à l'occasion d'une guerre, et de cette guerre sort le système mondial, vous savez comment il fonctionne. Vous avez une Assemblée générale des Nations Unies, à l'intérieur des Nations Unies, vous avez le Conseil de sécurité, et à l'intérieur du Conseil, avec des membres qui tournent, et à l'intérieur du Conseil de sécurité, vous avez un petit groupe, qui se trouvent être les puissances dotées, qui n'étaient pas les puissances dotées de l'arme nucléaire à la base, mais qui se sont toutes dotées, qui se sont entre-autorisées quelque part à se doter, qui sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Chine et l'Union soviétique, puis la Russie. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, ces membres permanents, tout simplement, sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. On peut dire ce qu'on veut de la France, elle est parmi les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Je maintiens mon avis que la France a gagné la Seconde Guerre mondiale à Dunkerque, mais je ne vais pas argumenter ce soir. Mais en tout cas, on y est, et donc on fait partie. Donc en fait, c'est un conseil donc des vainqueurs. C'est-à-dire que vous avez ceux qui étaient du bon côté, à ce moment-là, qui forment le noyau de ceux qui ont des privilèges particuliers, qui sont reconnus comme des grandes puissances et qui sont reconnus comme ayant le droit, notamment, de veto. C'est-à-dire, s'il y en a un qui n'est pas d'accord, la décision n'est pas prise par l'ONU. Ce qui n'empêche pas nécessairement le prince d'agir, n'est-ce pas ? Et donc vous avez comme ça des situations dans lesquelles souvent les États-Unis dans leurs interventions extérieures ont essayé de se faire adouber par l'ONU pour renforcer la légitimité de leur action, en particulier quand ils veulent renforcer la légitimité de leur action contre ceux qui pourraient mettre un droit de veto, parce que ceux qui voudraient mettre un droit de veto peuvent être, dans certains cas, sauf si c'est vraiment une ligne rouge pour eux, dissuadés de mettre leur veto, si jamais ils sentent que la pression globale de l'Assemblée, de l'ensemble des pays, est trop forte. Donc c'est à ce jeu-là que ça sert l'ONU. Mais en même temps, ça ne sert pas à bloquer l'action du prince, puisque comme on l'a vu, hein, même quand l'ONU n'est pas d'accord, par exemple en Irak en 2003, les États-Unis y vont, parce que c'est ce qui caractérise le souverain. C'est pas l'Assemblée qui est censée lui dire ce qu'il doit faire. Il y a quand même une volonté d'affirmation du pouvoir. Le même genre de choses que vous avez vu entre la dialectique, si vous voulez, entre le pouvoir royal et le pouvoir des États généraux pendant toute l'histoire de la construction nationale en France. Et il y a quelque chose d'intéressant, si vous voulez faire un petit parallèle avec ça, parce que je trouve que c'est celui qui est le plus parlant, je le fais dans Hill Caesars, c'est avec la transition vers le shogunat au Japon. Au début du XVIIe siècle, qui s'est fait au lendemain d'une bataille très importante dans l'histoire du Japon, qui est la bataille qui termine en fait la période proprement féodale ou considérée comme telle, c'est la bataille de Sekigahara. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la bataille de Sekigahara, qui a été remportée par le premier shogun, donc Tokugawa Ieyasu, est-ce que je peux vous mettre une petite image pour agrémenter le truc, ça renforcera l'ambiance. On doit avoir des petites images de la bataille de, enfin, des images, des estampes quoi, des trucs comme ça. Voilà. Bataille extrêmement importante. Et donc cette bataille, pourquoi elle est très importante? Parce que au lendemain de cette bataille qui a donc consacré le pouvoir et la domination de Tokugawa Ieyasu sur le Japon, escalité désormais de shogun. Vous aviez deux types de grands seigneurs, hein, donc les daimyo, si vous voulez, les oligarques, en fait, à l'intérieur du pays. Vous aviez les fudai daimyo et les tozama daimyo. Et les fudai daimyo, c'était les vassaux de souche, en fait, hein, les vassaux intérieurs. C'était ceux qui étaient déjà des vassaux ou des alliés du clan Tokugawa au moment de la bataille de Sekigahara. Et eux, ils étaient toujours proches du pouvoir, c'était les premiers à avoir... à avoir des places, des postes dans l'appareil d'État, etc. Et ensuite, vous aviez les daimyo Tozama, qui, eux, étaient les gens qui avaient été vaincus à la bataille de Sekigahara, ou qui n'étaient pas des alliés traditionnels, et donc dont le clan Tokugawa se méfiait, et qui étaient un petit peu en second rang. Oui. Bon, bien sûr, au fil des décennies et des siècles, les rapports ont diminué. Il y a des seigneurs extérieurs qui ont pu se rapprocher du shogun, notamment parce que c'était un moyen pour le shogun de les mettre en concurrence avec ses alliés traditionnels qui pouvaient prendre trop d'importance, mais c'est comme ça que ça commence. Et donc, l'ordre international qu'on trouve au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à travers l'ONU et ses institutions, est très proche de ça. Voilà. Donc c'est assez caractéristique. Et donc depuis, on est là-dedans. Depuis on est là-dedans, ça fait quand même 80 ans, donc c'est une durée honorable. Et nous arrivons à un stade dans lequel, alors au fil de cette période naturellement, le pouvoir du souverain américain précisément s'est renforcé, puisqu'il a réussi à se maintenir déjà à la tête de l'édifice, donc il a renforcé, rajouté de la coutume et de l'habitus, si vous voulez, au sein des peuples à son autorité. Il n'a pas perdu sa puissance et sa domination économique, il a commencé à être contesté, il y a des problèmes avec la Chine, etc. Mais grosso modo, bien sûr, il n'a plus la part dans le commerce mondial et la production mondiale qui était qui était énorme en 1945, donc de ce côté-là, ça s'est affaibli. Mais c'est partiellement compensé en tout cas par un certain nombre d'autres mécanismes, notamment le renforcement du système d'alliance et encore une fois l'habitus. Même si tout ceci commence à peser très très lourd et très très cher sur le souverain, qui en l'occurrence est donc les États-Unis. Et donc on arrive, avec Donald Trump, à la phase absolutiste en interne des États-Unis. Alors je ne reviens pas là-dessus, sur la phase absolutiste interne des États-Unis, je renvoie aux émissions que j'ai faites sur le sujet. Simplement, ben, naturellement, Donald Trump essaie de pousser la même chose à l'échelon international. Et c'est là que c'est très intéressant, parce que on a donc une puissance américaine qui, en particulier après 1991 et l'effondrement du principal oligarque rival, si vous voulez, qui était l'Union soviétique, les États-Unis sont restés. Alors on a parlé d'hyperpuissance, la superpuissance restée toute seule, etc. Oui, certes. Mais surtout, ça a confirmé le statut de prince des nations, si vous voulez, des États-Unis. Ce qui s'est affirmé tout de suite, d'ailleurs, par la première guerre en Irak, qui était une façon, quelque part, de gagner militairement contre l'Union soviétique de manière indirecte, en allant écraser un ancien allié ou équipé par l'Union, plein de gavé de matériel de l'Union soviétique. Ensuite, il y a eu les bombardements de l'OTAN en Serbie, un certain nombre d'opérations de police comme ça, et bien sûr, les opérations au Moyen-Orient, la guerre contre la terreur à l'échelle mondiale, enfin il y a eu toutes ces opérations américaines qui ont eu lieu depuis, avec une autorité américaine qui s'est de plus en plus affirmée en fait. En même temps que certes, vous aviez un nouveau rival qui apparaissait petit à petit, qui était la Chine, et puis vous aviez l'ancien rival battu qui s'avouait pas totalement vaincu, la Russie, et qui essaie de revenir à son tour. Et donc on arrive aujourd'hui à ce moment qui peut être, qui à mon avis sera un moment de nouvelle confrontation. Et d'ailleurs, c'est assez classique que dans le cadre d'une montée vers l'absolutisme, vous ayez une confrontation avec les vassaux. Hein. Vous pouvez penser à la Fronde, mais même avant ça, la première grande confrontation. En général, la phase oligarchique se termine, avant que s'ouvre la phase absolutiste, par une liquidation des factions. Alors, il y a encore ce risque d'ailleurs en interne aux États-Unis, avec les risques de guerre civile qui sont réels aux États-Unis, hein, d'après moi, là-dessus. Mais c'est pareil à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, une guerre civile, c'est une guerre, hein, tout simplement. Vous pouvez considérer que les guerres mondiales sont des guerres civiles mondiales, si vous regardez ça du point de vue de l'État mondial, avec des gens qui contestent le pouvoir, qui veulent remplacer le suzerain, etc. Vous pouvez l'analyser comme ça ne pose aucun problème. Et ça a sa vérité. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec un Donald Trump qui est face aux exigences, aux nécessités que recouvre la transition absolutiste, qui est à la fois de mettre tout le monde au pas, et mettre tout le monde au pas, ça implique notamment de liquider les institutions qui avaient permis de créer cet ordre mondial autour de lui, le légitimer, mais qui finissent par devenir encombrants, parce que ce sont certes des institutions qui lui ont permis, au suzerain, d'asseoir sa légitimité et d'appuyer son action, mais ce sont aussi des institutions qui reconnaissent des droits à ses rivaux. Or, vous arrivez au stade, et c'est ce qui caractérise la phase absolutiste, où il ne veut plus que avoir de rivaux, il veut plus avoir d'oligarques. L'absolutisation, c'est la concentration dans un seul système qui décidera pour les autres. Et donc, c'est tout à fait logique que Donald Trump en arrive là. Si vous regardez, au lendemain des guerres de religion, la monarchie a commencé à faire un truc de plus en plus régulier. Ça avait commencé déjà pendant la deuxième moitié du XVIe siècle, justement au moment des guerres de religion, c'est-à-dire avec ça commence avec Henri II, qui est le premier en fait à faire des tentatives absolutistes, Henri II, véritablement. Ça commence un peu sous François Ier, mais on a vraiment le premier avec Henri II. Et après Henri II, tout se barre en cacahuète, puisque vous avez les oligarques qui se disent donc pas question et qui essaient de reprendre le pays en main. Ça débouche sur les guerres de religion. Et quand on sort de ces guerres, vous avez l'équivalent, c'est la guerre des Deux Roses en Angleterre, un siècle avant. Et donc à la fin, vous avez une liquidation de factions. Et vous avez la mise en place du nouveau pouvoir. Et donc, à l'occasion de ce mouvement, vous aviez de plus en plus la monarchie française qui cherchait à se débarrasser des États généraux ou à ne plus recourir à eux et à les remplacer par des assemblées de notables, c'est-à-dire des gens, justement, des oligarques qui sont réunis par le roi lui-même, mais qui décident en fait qui c'est qui vient et qui s'appuie sur eux pour plus avoir à s'appuyer sur une assemblée plus large et en particulier ne plus avoir à respecter le droit de parler d'un tel ou un tel. C'est-à-dire, vu que c'est lui le roi qui compose le conseil, il n'y a plus de souci là. Et ce qui caractérisera la monarchie absolue, c'est que le roi fait venir qui veut dans son conseil et il n'y a plus de questions là-dessus, il n'y a pas des gens qui ont le droit de venir et qui peuvent s'imposer au roi et tout ça, c'est terminé. Alors les assemblées notables, il y en aura quelques-unes dans les 10-20 ans qui suivent les derniers états généraux, c'est-à-dire en 1614, et après il y aura de toute façon plus rien, ni les uns ni les autres, jusqu'à la Révolution française. Mais à la veille de la Révolution française, les rois tenteront l'assemblée notable avant de tenter l'état généraux. Parce que, comme quoi, ils se souvenaient que c'était quand même plus efficace. Et ils sont allés ouvrir les états généraux en désespoir de cause. Bref, mais je reviens donc sur mon idée, c'est que c'est assez classique de chercher à remplacer les institutions traditionnelles par une nouvelle institution qui sera plus sur mesure pour le pouvoir qui essaie de se construire. Et donc, forcément, quand j'ai vu apparaître ce Conseil de la paix, moi je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il cherche à faire, hein, Donald Trump. De la même manière, sur l'autre plan, si vous voulez, ce qui est sur le plan des tarifs, etc., là aussi, je vous avais fait le parallèle avec Colbert, je renvoie à l'émission que j'avais fait dessus, je crois que c'était Réorganisation impériale, c'est intitulé. C'est dans la liste des essentiels. Vous aviez la mise en place donc des tarifs qui sont tentatives de réorganisation économique autour et au profit des États-Unis, parce que tout simplement, en l'état des choses, ce qui caractérise la monarchie absolue, c'est qu'il y a aussi un besoin de centraliser plus de ressources. Parce que si vous restez dans un système oligarchique, le système central n'a plus assez de ressources pour tenir tout ça. Donc il est obligé de essorer les oligarques, tout rassembler et faire venir le pognon à lui. Voilà, c'est ça l'idée. Donc de créer des systèmes d'impôts, de captation, etc. Et donc c'est très intéressant, je trouve, cette idée de conseil de la paix. Pour moi, ça va totalement dans ce sens-là. Et donc on va regarder quelle est, parce que encore une fois, c'est pas un truc qui a été annoncé en l'air. Ils ont rédigé une charte avec l'idée d'y faire adhérer un certain nombre de pays. Il leur en faut 3 pour le lancer. A priori, vu qu'il y a déjà au moins Israël, le Maroc et quelques autres qui ont dit oui, ça va être signé et ça va être lancé. Je vois que l'Iroumissime m'a envoyé un report sur X qui semble indiquer que Vladimir Poutine a aussi dit qu'il acceptait de participer au Conseil de la paix. Je ne sais pas ce que la Chine en dit encore aujourd'hui. Mais c'est vachement important parce que tout de suite... alors moi, je n'avais pas anticipé que le Conseil de la paix pour Gaza, ça irait vers ça. Mais je suis tout à fait fasciné parce que ce qui m'a fait penser à tout ça, c'est que c'est hier matin, quand j'ai entendu les commentaires journalistiques en disant Donald Trump essaie de remplacer l'ONU, que je me suis dit, mais c'est bien sûr. C'est là que ça m'a rappelé ce que je vous disais que j'avais dit il y a 20 ans dans ce bouquin. Et donc ça veut dire qu'ils ont rédigé une charte, que c'est très réfléchi de la part des États-Unis, qu'il y avait vraiment la volonté de mettre en place quelque chose. Et vous allez voir que ça va mettre en place des choses à l'échelle mondiale, mais aussi vraisemblablement à l'intérieur des États-Unis. C'est ça qui est aussi intéressant. Et peut-être de la manière dont je l'avais dit dans mon bouquin, encore une fois. Ce que je vais vous commenter là, bien sûr, ça ne préjuge pas forcément que cette initiative de Donald Trump va fonctionner. C'est pas sûr, ça peut rater. Mais peut-être que ça sera proposé, en tout cas, peut-être, un truc équivalent sera proposé dans 10 ans par un autre président américain, et cette fois-ci ça fonctionnera. Par exemple, au lendemain de la guerre, si ça n'a pas fonctionné avant. Ou alors ça va être lancé, ça va avoir un succès pas terrible avec Donald Trump, et ensuite au lendemain de la guerre, ça permettra d'entériner plus facilement le nouvel ordre mondial autour des États-Unis. Voilà, donc encore une fois, je ne peux pas préjuger, ce qui est très intéressant c'est de voir à quel point c'est dans la ligne de ce que l'historionomie et ses modèles prévoient sur la progression de cet état mondial. Alors, je vais vous afficher le texte, on l'a trouvé, c'est sur le Times of Israel, qu'un compagnon me l'a envoyé hier, qui a été entièrement, qui est en texte intégral. Donc, du coup, on va le lire ici. Alors, je vais vous le lire en entier, puis le commenter, parce que c'est pas très très long. Ce sera moins long que quand on avait fait la stratégie de sécurité nationale américaine. Là aussi, je renvoie à l'émission pour ceux que ça intéresse. Préambule. Affirmer qu'une paix durable exige... alors c'est affirmant, en réalité. Je sais pas ce que m'a fait le traducteur automatique, mais c'est affirmant. Affirmer, ça n'a aucun sens, puisque ce sont des formules donc de préambule. Affirmant qu'une paix durable exige un jugement pragmatique, des solutions de bon sens et le courage de s'éloigner des approches et des institutions qui ont trop souvent échoué. Reconnaissant que la paix durable s'installe lorsque les gens sont en mesure de prendre en main leur avenir et d'en assumer la responsabilité. Petite parenthèse. La paix, c'est typiquement la première chose qu'un souverain garantit. Un souverain absolu, il garantit la paix. C'est ça qu'il promet. Dans la construction de l'État, d'ailleurs, c'est à la base, vous savez, vous aviez la paix le roi. C'était le fait que, par rapport au régime féodal strict où les gens pouvaient se faire la guerre quand vous voulez, les rois, petit à petit, ont réussi à imposer de limiter les périodes que pouvaient se faire de guerre privée que pouvaient se faire les seigneurs dans l'année de plus en plus. Et ça, c'était le pouvoir royal qui l'imposait, jusqu'à ce qu'en fait, les guerres privées soient totalement interdites. Ensuite, on a interdit les duels judiciaires aussi, qui était la continuation de ça. Et c'est donc ce travail de pacification, si vous voulez. Et c'est totalement dans la ligne, c'est la théorie de Hobbes, hein, le Léviathan, qui est là pour empêcher les gens de se taper dessus, en fait, hein, tout simplement. Donc, dans ce conseil de la paix, c'est ça qu'il faut voir. C'est pas la paix, Miss France, tout ça. C'est cette idée-là centrale qu'il faut qu'il y ait une puissance au milieu qui impose la paix à l'échelle du monde. Donc c'est la loi et l'ordre, si vous voulez. Je poursuis. Affirmant que seul un partenariat durable et axé sur les résultats fondés sur le partage des responsabilités et des engagements peut garantir la paix dans les lieux où elle s'est avérée trop longtemps insaisissable. Déplorant que trop d'approches en matière de conciliation de la paix favorisent une dépendance perpétuelle et institutionnalisent la crise au lieu d'aider les populations à les surmonter, soulignant la nécessité d'un organe international de consolidation de la paix plus agile et efficace, et résolu à constituer une coalition d'États volontaires engagés en faveur d'une coopération concrète et d'une action efficace, guidée par le jugement et la justice, les parties adoptent par la présente la charte du Conseil de la paix. Alors, article 1, mission. Objectifs et fonctions. Le Conseil de la paix est une organisation internationale qui œuvre à promouvoir la stabilité, à rétablir une gouvernance fiable et légitime, et à garantir, celle des États-Unis bien sûr, et à garantir une paix durable dans les zones touchées ou menacées par un conflit. Et de ce point de vue-là, vous voyez que tout ce qu'a annoncé Donald Trump sur le fait qu'il avait mis fin à un certain nombre de conflits, etc., c'était en fait, alors je ne sais pas si c'est un préambule à ça, mais en tout cas ça a nourri cette pensée-là, qui est que, d'ailleurs je crois qu'il l'a dit dans son discours, il a dit c'est l'ONU qui aurait dû mettre fin à tous ces conflits, ils ne l'ont pas fait, donc et quelque part c'est moi, bon, c'est douteux sur un certain nombre de cas, encore que ça s'est quand même calmé, j'y reviendrai quand je ferai un petit tour tout à l'heure, mais grosso modo ça a quand même fonctionné, les paix de Trump sont fragiles, mais elles existent. Il faut dire que c'est des paix par pure intimidation, souvent. Donc, ça a la fragilité de ça, mais ça a aussi la solidité de ça. Le Conseil de la paix exerce les fonctions de consolidation de la paix conformément au droit international et à la présente charte, notamment l'élaboration et la diffusion de bonnes pratiques applicables par toutes les nations et communautés aspirantes à la paix. Chapitre 2. Adhésion. États membres. L'adhésion au Conseil de la paix est limitée aux États invités à participer par le président et prend effet des notifications que l'État a consenti à être lié par la présente charte conformément au chapitre 11. Alors là, c'est extrêmement intéressant, et d'ores et déjà, je dois un peu déflorer le propos pour la suite. Bon, Vladimir Poutine, il a dit oui, d'accord, je viens, parce qu'il peut rien dire, lui, c'est à tout prix de gagner du temps en Ukraine, donc il n'y a pas de souci, mais c'est pas étonnant qu'il fasse ça. Mais il faut bien se rendre compte que c'est pas du tout la même philosophie d'organisation que l'ONU, justement. Encore une fois, l'ONU, vous avez tout le monde qui est représenté, vous avez certains privilégiés à l'intérieur qui étaient parmi les vainqueurs de la guerre d'avant. Là, vous avez un système dans lequel toute la concentration du pouvoir se fait dans la présidence, qui est censée être tenue par les États-Unis, et qui va décider qui est un membre et qui ne l'est pas. Alors, on va voir dans quelles conditions juste après, mais ça veut dire quoi aussi, je le dis d'ores et déjà, ça veut dire que si vous étiez un membre du Conseil de sécurité de l'ONU, un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et que vous allez vous mettre dans le Conseil de la paix de Donald Trump, votre droit de veto, vous l'avez plus. Donc c'est un déclassement excessivement important par rapport à l'affirmation de souveraineté des États-Unis. D'où d'ailleurs le fait que beaucoup de pays, notamment européens, ne veulent pas trop. Je pense que la France, Emmanuel Macron, a bien compris ce que ça impliquait. Alors on va voir, on va détailler ça. Article 2. Responsabilité des États membres. Chaque État membre est représenté au Conseil de la paix par son chef d'État ou de gouvernement. Chaque État membre soutient et assiste les opérations du Conseil de la paix conformément à son droit interne. Aucune disposition de la présente charte ne saurait être interprétée comme conférant au Conseil de la paix une compétence sur le territoire des États membres, ni comme obligeant ces derniers à participer à une mission de consolidation de la paix particulière sans leur consentement. Alors ça c'est intéressant parce que justement c'est un mécanisme de confédération. Pas encore de fédération, mais donc il n'est pas question d'intervenir directement à l'intérieur des États. Mais c'est normal, ça c'est quelque chose qui vient plus tard, hein, dans la construction de l'absolutisme. À la base, vous avez déjà le fait de ramener le pouvoir à vous comme un faisceau, comme ça. Petit c, chaque État membre siège pour un mandat d'une durée maximale de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente charte, renouvelable par le président. Cette durée de 3 ans ne s'applique pas aux États membres qui versent au Conseil de la paix une contribution en numéraire supérieure à 1 milliard de dollars américains au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur de la charte. Alors, j'ai pas bien compris, honnêtement, cet article dans son détail technique. C'est-à-dire, bon, d'accord, une durée maximale de 3 ans chaque État membre qui siège. Très bien. À compter de l'entrée en vigueur. Mais c'est renouvelable par le président. Donc en fait, vous pouvez siéger pendant beaucoup plus longtemps. Le truc, c'est que vous n'avez pas de siège qui est acquis. Donc en fait, ça remet les compteurs à zéro par rapport aux membres permanents, encore une fois, du Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'y a plus de membres permanents. Enfin, le seul membre permanent, c'est le président, donc en l'occurrence les États-Unis. Cette durée, alors c'est ça que je comprends. Cette durée de 3 ans ne s'applique pas aux États membres qui versent au Conseil de la paix une contribution numéraire supérieure à 1 milliard de dollars américains au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur de la charte. Donc, est-ce que ça voudrait dire que, justement, deviendraient membres permanents tous les gens qui paieraient 1 milliard de dollars américains au cours de la première année. Ce qui paraît assez peu, quand même, à payer pour devenir membre permanent. Est-ce que c'est pour faire une espèce de FOMO, en fait, pour Fear of Missing Out, le fait que les gens se précipitent, parce que sinon, c'est une offre à durée limitée. Je ne sais pas trop. Et il n'a pas l'air d'être précisé qu'il faudra payer 1 milliard de dollars par an, quoi. C'est pas une... Donc, voilà, pour moi, ça, c'est pas très très clair. Article 2.3, cessation d'adhésion. L'adhésion prend fin à la première des éventualités suivantes. 1. L'expiration d'un mandat de 3 ans sous réserve de l'article 2.2. Donc ça veut dire que si le président vous renouvelait le pas, vous dégagez. Et de son renouvellement par le président. 2. Le retrait conformément à l'article 2.4. Donc ça, on va le voir après. Et 3, ça qui est important, une décision de révocation du président susceptible d'un veto à la majorité des 2/3 des États membres. Donc là, on voit, c'est par imitation de la Constitution américaine, hein, le veto sur les lois. Le président américain peut mettre son veto sur n'importe quelle loi, il faut que le Congrès vote aux 2/3 pour la faire passer. Ou quatrièmement, la dissolution du Conseil de la paix, conformément au chapitre 10. Alors ça, si on verra, j'ai une petite incompréhension dessus, mais enfin, c'est ça qui est intéressant pour l'instant. Un État membre dont l'adhésion prend fin cesse également d'être partie à la charte, mais il peut être invité à nouveau et devenir État membre. Donc on peut rentrer, sortir, en réalité ça donne une grosse souplesse et surtout une puissance de sélection au président, c'est-à-dire aux États-Unis. Retrait. Tout État membre peut se retirer du Conseil de la paix avec effet immédiat en adressant une notification écrite au président. Bon ça c'est... vous pouvez toujours partir si vous voulez, la question étant, qu'est-ce que vous gagnez à partir ? Parce que si les choses se décident sans vous à partir de là, c'est pas forcément intéressant. Gouvernance. Le Conseil de la paix. Le Conseil de la paix est composé de ses États membres. Le Conseil de la paix vote sur toutes les propositions inscrites à son ordre du jour, y compris en ce qui concerne les budgets annuels, la création d'entités subsidiaires, la nomination de hauts dirigeants et les décisions politiques majeures, telles que l'approbation d'accords internationaux et la poursuite de nouvelles initiatives de conciliation de la paix. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que, en fait, vous donnez toutes les compétences possibles, et en fait, vous pouvez avoir un noyau d'État, là. C'est-à-dire que, vote sur toutes les propositions inscrites à son ordre du jour, y compris ce qui concerne les budgets annuels. Donc ça veut dire qu'il y aura un budget annuel. C'est qui paye ce budget annuel ? Il n'a été question jusqu'à présent que des contributions d'un milliard de dollars qui pourraient être amenées. Donc ça, je vous parlais de centraliser des ressources, ça peut être le moyen de commencer à créer un truc qui, ensuite... exigerait le paiement d'une espèce de tribu à cette organisation qui serait dirigée par les États-Unis. Et par ce biais-là, les États-Unis construiraient cet État mondial. Et c'est à ça que servirait le Conseil de la paix. Chose à quoi ne peut pas servir l'ONU de cette manière-là jusqu'à présent. La création d'entités subsidiaires, donc là ça peut être des organisations, l'équivalent des agences américaines, de l'État américain, donc pour donner du pouvoir, en fait. Donc c'est là une structure d'État, en fait, hein, que vous mettez en place, de super-État. La nomination de hauts dirigeants, là aussi, on ne sait pas trop quel poste, et des décisions politiques majeures telles que l'approbation d'accords internationaux et la poursuite de nouvelles initiatives de consolidation de la paix. Donc accords internationaux, ça serait l'équivalent de loi mondiale sur un certain nombre de sujets. Donc tout ceci va quand même encore plus loin que ce qui peut être fait à l'ONU avec les résolutions, etc. C'est quelque chose qui est beaucoup plus coercitif comme capacité. A priori, en tout cas, c'est ce qui est implicitement suggéré. Toujours dans l'idée d'avoir plus d'efficacité. Classique absolutisme. Le Conseil de la paix tient des réunions de vote au moins une fois par an et à d'autres dates et lieux que le président juge appropriés. Le président, il est là tout le temps. C'est lui qui décide tout. De toute façon, c'est très simple. Absolutisme, full absolutisme. L'ordre du jour de ces réunions est établi par le Conseil exécutif sous réserve de la consultation des États membres et de l'approbation du président. Chaque État membre dispose d'une voix au Conseil de la paix. Les décisions sont prises à la majorité des États membres présents et votants, sous réserve de l'approbation du président, qui peut également voter en sa qualité de président en cas d'égalité. Alors là, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le président, lui, a une voix d'État, à lui tout seul, donc il peut rompre l'égalité. Ça, encore une fois, ça ne vient pas nulle part, hein. C'est la tradition juridique américaine, puisque c'est le rôle du vice-président américain au Sénat. Décision prise à la majorité des États membres présents. Là, c'est un rabaissement des oligarques, hein, tout simplement, en s'appuyant sur les états secondaires, en fait, d'une certaine manière. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous allez avoir des états, justement, comme la Hongrie, vous voyez, ou Israël, des états, alors bon, ils sont pas forcément le même poids, mais c'est le même de population, vous voyez, une dizaine de millions d'habitants, mais qui auront la même voix qu'un gros état, justement, comme la Russie ou la Chine. Ça va être difficile de leur faire avaler ça, je suppose. Mais l'idée, c'est de renforcer encore une fois le pouvoir central. Chaque État membre, donc ça je l'ai déjà lu, le Conseil de la paix tient également des réunions régulières sans vote avec son Conseil exécutif, au cours desquelles les États membres peuvent soumettre des recommandations ou des orientations concernant les activités du Conseil exécutif, et au cours desquelles le Conseil exécutif rencontre au Conseil de la paix de ses opérations et décisions. Ces réunions se tiennent au moins une fois par trimestre, la date et lieu étant fixés par le directeur général du Conseil exécutif. Donc là, conseil exécutif, on est sur gouvernement mondial, l'équivalent mondial d'un gouvernement. Hein. C'est le petit conseil, si vous voulez, c'est le conseil du roi, là, directement. Le conseil secret. Les États membres peuvent choisir d'être représentés par un autre haut fonctionnaire à toutes les réunions, sous réserve de l'approbation du président. Ok. Le président peut adresser des invitations aux organisations d'intégration économique régionale concernées pour participer aux travaux du Conseil de la paix selon les modalités qu'il juge appropriées. Et là, on arrive bien sûr au principal, n'est-ce pas? C'est le président. Donald J. Trump sera le premier président du Conseil de la paix et il sera également le premier représentant des États-Unis d'Amérique sous réserve uniquement des dispositions du chapitre 3. Le président a l'autorité exclusive de créer, de modifier ou de dissoudre les entités subsidiaires selon les besoins et les circonstances nécessaires à l'accomplissement de la mission du Conseil de la paix. Alors, en fait, il faut se rendre compte que vous avez une espèce de transposition des pouvoirs et les plus étendus, hein, de la présidence impériale américaine à l'échelle mondiale. Hein, c'est ça l'idée. Article 3.3. Intéressant. Succession et remplacement. Le président désigne en permanence un successeur à sa présidence, c'est un peu comme le vice-président américain, hein, il faut qu'il y ait quelqu'un pour prendre le relais si jamais. Son remplacement ne peut intervenir qu'en cas de démission volontaire ou d'incapacité constatée à l'unanimité par le conseil d'administration. Dans ce cas, le successeur désigné prend immédiatement ses fonctions et assume l'ensemble des responsabilités et pouvoirs qui y sont attachés. Point. Vous notez qu'il n'y a pas de limite de durée de mandat. Il n'y a pas de limite de durée de mandat à ce stade-là. C'est-à-dire que le président y reste et ne peut partir, ne peut être mis dehors qu'en cas d'incapacité constatée. Voter à l'unanimité par le conseil d'administration, on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que ça correspond au conseil exécutif? Est-ce que c'est le conseil de la paix dans son ensemble? On ne sait pas. Mais en tout cas, l'idée qu'il ne peut être intervenu, il n'y a que la démission volontaire ou sinon il reste. Et ça, pourquoi c'est vachement important? Parce que ça veut dire que je vous rappelle que le gros problème de Donald Trump actuellement, c'est qu'il ne peut pas se représenter aux États-Unis. Mais si on met en place cette présidence impériale au-dessus des États-Unis, à l'échelle du monde, en utilisant la puissance américaine pour faire ça, et que cette présidence-là, il n'y a pas de limite de mandat, le type reste là. Qu'est-ce qui se passe? Ben Donald Trump y restera après la fin de son mandat aux États-Unis. Et donc il restera président du monde, en fait. C'est ça l'idée qu'il y a derrière ça. Et pourquoi c'est extrêmement fascinant? Mais c'est parce que c'est ce qu'a fait Auguste. C'est l'Empire, c'est précisément ça. C'est-à-dire que vous avez toujours des consuls, mais désormais vous avez un type auquel on a donné un certain nombre de pouvoirs, qui est hors du système et qui chapeaute tout. Et qui chapeaute même des trucs directement en dehors de Rome. Puisqu'il détient les provinces impériales et les légions qui sont dans les provinces impériales. Les provinces sénatoriales sont réglées par le Sénat et par le système sénatorial, mais à l'extérieur, les légions, elles sont à l'extérieur, sur le pourtour, là où il y en a besoin, mais elles sont sous le commandement de l'impérator. Et c'est lui qui les commande. Et le Sénat, lui, il n'a pas d'armée à opposer. Donc en fait, celui qui a le pouvoir, c'est l'empereur. Alors, pour l'instant, il n'y a pas question de faire de l'armée américaine, l'armée impériale, mais il reste 3 ans à Donald Trump. Donc, la façon, ça va quand même vachement, vachement dans la direction d'une construction impériale. Surtout s'il arrive à placer un mec à lui à la présidence des États-Unis. Est-ce que vous voyez le truc? Et ça, c'est intéressant parce que ça a été peu souligné. Pourtant, les gens avaient vu que, ils avaient suggéré qu'il y avait l'histoire, vous savez, de l'Union Russie-Biélorussie, l'état de l'Union, et que ça serait un moyen pour Vladimir Poutine de se maintenir au pouvoir en étant le président de la fédération entre les deux États au-dessus. Mais là, pour le coup, c'est encore plus ça, quoi. Et le fait que Donald Trump se fasse désigner, en fait, il se ferait introniser dans cette superstructure, lui, président du monde. En fait, c'est ça que ça donne. Alors autant vous pouvez en rigoler aujourd'hui si vous voulez, parce que vous dites ça passera pas. Ok. Mais si on a une guerre mondiale avec la Chine et la Russie, ou que la Chine, parce que Donald Trump espère l'éviter avec la Russie, parce que la Chine a été invitée dans le Conseil de la paix, je pense que c'est parce que ça faisait mauvais effet de ne pas l'inviter, mais parce qu'en fait, c'est l'invitation dans le Conseil de la paix, c'est un moyen de venir directement baiser l'anneau, si vous voulez, en disant voilà, vous reconnaissez ma suzeraineté ou pas. Mais donc, s'il y a une guerre mondiale avec les États-Unis qui en sortent vainqueurs, ce sera très difficile d'aller contester ce truc-là. Donc, c'est pour ça que ça me paraissait important d'en discuter ce soir, oui. C'est un peu le cœur du truc. Et encore une fois, full mutation absolutiste, hein, là, pour le coup, avec le parallèle impérial qui est assez net. Article 3.4, sous-comité. Le président peut créer des sous-comités selon les besoins ou circonstances et définir le mandat, la structure et les règles de gouvernance de chacun de ces sous-comités. Donc il peut en fait créer toute une administration impériale à discrétion. Voilà. Chapitre 4. Ah si, il est là le conseil d'administration, excusez-moi. Mais je ne sais pas si... si, c'est ça. Le conseil exécutif, il vient après. Voilà. Mais c'est là aussi, je crois qu'il y avait des trucs qui m'ont pas paru très clairs en première lecture. On va voir ça tout de suite. Composition et représentation du conseil d'administration. Le conseil exécutif sera... Ah ben c'est ça en fait. Le conseil d'administration, c'est le conseil exécutif. On est d'accord. Je pense pas le comprendre de travers en disant ça. Pensez à mettre des pouces, j'ai oublié de vous dire, mais c'est bien, c'est l'occasion de le rappeler. Mettez des petits pouces vers le haut, ça aide bien au référencement. Et j'en profite aussi pour dire bonjour à tous les gens qui sont arrivés, parce que grâce à nos campagnes de promo, vous avez essayé un certain nombre à nous rejoindre. On est 76 000 maintenant, ça progresse vite. En ce moment, c'est très efficace, on doit être servi par l'IA, je suppose. Donc merci d'être là, et n'hésitez pas à mettre des pouces, et j'espère qu'on va vous voir de plus en plus nombreux dans le cadre de ces émissions. Donc. Le conseil exécutif sera choisi par le président et sera composé de dirigeants de stature mondiale. Si c'est le président qui choisit tout le monde, c'est le président qui sélectionne son conseil, encore une fois, conseil du roi. Les membres du conseil exécutif siègent pour un mandat de 2 ans, susceptible d'être révoqué par le président et renouvelable à sa discrétion. Donc en fait, c'est le président qui décide juste. Ça permet de rajouter une petite ligne, vous voyez, pour faire genre, c'est pas purement arbitraire, mais en réalité, c'est purement arbitraire. Parce que susceptible d'être révoqué, on comprend que c'est aussi à sa discrétion. Le conseil exécutif est dirigé par un directeur général nommé par le président et confirmé par un vote majoritaire du conseil exécutif. Alors, je continue. Le directeur général convoque le conseil d'administration toutes les 2 semaines pendant les 3 premiers mois suivant sa création et mensuellement par la suite. Avec des réunions supplémentaires convoquées selon ce que ce directeur général juge approprié. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité de ses membres présents et votants, y compris le directeur général. Ces décisions entrent en vigueur immédiatement sous réserve du droit de veto du président à tout moment. Donc là aussi, c'est Louis XIVien, quoi. Le conseil exécutif détermine son propre règlement intérieur. Donc en fait, vous avez une espèce de chancelier, n'est-ce pas, qui sera mis en place. Et voilà, hein. Mandat du conseil d'administration. Le conseil exécutif, donc c'est bien synonyme, doit, petit a, alors attendez du coup, parce que je reviens au-dessus sur le conseil exécutif, qu'est-ce qu'on a vu qui décidait le conseil exécutif? Parce que du coup, chaque fois que vous avez vu des trucs du le conseil exécutif décide, vous comprenez que c'est le président qui décide, hein, dans tout ce qu'on a vu avant. Donc j'essaie de voir. L'ordre du jour de ces réunions est établi par le conseil exécutif, donc ça veut dire par le président. Ouais. Sous réserve de la consultation des États membres, donc consultation, ça n'engage à rien, et de l'approbation du président, donc en fait c'est le président. Hein. Moi je lis, si vous avez fait un peu de droit des institutions, vous voyez assez vite l'entourloupe, c'est dans le sens qu'en fait tout ceci est une mise en scène institutionnelle du pouvoir d'un seul homme, hein. Encore une fois, totalement absolutiste. Mandat du conseil d'administration. Le conseil exécutif doit exercer les pouvoirs nécessaires et appropriés pour mettre en œuvre la mission du conseil de la paix conformément à la présente charte. rendre compte au Conseil de la paix de ses activités et décisions sur une base trimestrielle, conformément à l'article 3.1, et à d'autres moments que le président peut déterminer. Article 5.1, frais. Chapitre 5, dispositions financières. Pourquoi l'article n'est pas dans le chapitre ? Je ne sais pas. Le financement des défenses du Conseil de la paix proviendra de contributions volontaires des États membres, d'autres États, d'organisations ou d'autres sources. Quand je disais que ça servirait de base à la perception d'impôts mondiaux pour nourrir la structure et créer un super truc, en fait. Encore une fois, les ressources de l'État américain ne suffisent plus. Ça pèse trop sur l'économie américaine. L'endettement américain est énorme. Donc le meilleur moyen, c'est accroître l'assiette. Voilà. Vous allez basculer de sur 350 millions d'habitants à sur des milliards d'habitants et pomper du fric comme ça pour nourrir et notamment payer l'armée, probablement, à un certain stade. Et à partir du moment où l'armée américaine sera principalement payée via le Conseil de la paix, ça sera l'armée impériale et ça sera bien uniquement dans la main de l'empereur, en fait. Hein, voilà, c'est ça. Le Conseil de la paix peut autoriser l'ouverture de comptes selon les besoins de la mission. Le Conseil exécutif autorise la mise en place de mécanismes de contrôle et de surveillance des budgets, des comptes financiers et des décaissements selon les besoins et les circonstances afin d'en garantir l'intégrité. Donc en fait, voilà, ramasser du pognon, utiliser le pognon. Statut juridique. Le Conseil de la paix et ses entités subsidiaires possèdent la personnalité juridique internationale. Ils disposent des capacités juridiques nécessaires à l'accomplissement de leur mission, y compris mais sans s'y limiter. La capacité de conclure des contrats, d'acquérir et de céder des biens immobiliers et mobiliers, Donald Trump s'y connaît, d'intenter des actions en justice, d'ouvrir des comptes bancaires, de recevoir et de décaisser des fonds privés et publics, et d'employer du personnel. Le Conseil de la paix veille à ce que les privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de ses fonctions et de celles de ses entités subsidiaires et de son personnel soient accordés, soit par le biais d'accords conclus avec les États où le Conseil de la paix et ses entités subsidiaires exercent leurs activités, soit par toute autre mesure prise par ces États conformément à leur législation nationale. Le Conseil peut déléguer le pouvoir de négocier et de conclure de tels accords ou arrangements à des fonctionnaires désignés au sein du Conseil de la paix et ou de ses entités subsidiaires. Donc là, on est en train de vous expliquer que le Conseil de la paix veillera à, en fait, même si on vous a dit plus haut qu'il n'interviendrait pas directement à l'intérieur des États, qu'il veillerait à, par des accords avec les États membres, donner tous les pouvoirs nécessaires, même à l'intérieur de ces États, à ses fonctionnaires. Donc, vous avez la mise en place de l'administration impériale, l'administration royale, si vous voulez, en parallèle des anciennes administrations féodales et oligarchiques. Voilà. Vous les doublez pour ensuite les siphonner, pour ensuite les détruire, tout simplement, et les remplacer. Classique. Article 7. Interprétation et règlement des litiges. Les différences internes entre les membres, les entités et le personnel du Conseil de la paix concernant les questions relatives au Conseil de la paix doivent être résolues par une collaboration à l'amiable, conformément au pouvoir organisationnel établi par la charte, et à ses fins, le président est l'autorité finale en ce qui concerne la signification, l'interprétation et l'application de cette charte. Donc c'est le président qui juge. Le juge suprême, c'est le président, et c'est lui qui décide de faire des arbitrages entre ses sujets. Puissance, la juridiction, hein, tout simplement. C'est, vous savez, c'est les quatre attributs de l'empereur. La majestas, l'imperium, la juridiction et... Oh, je vais oublier le dernier. L'auctoritas. Voilà. L'auctoritas. L'auctoritas, c'est donc la majestas, c'est le fait d'être au-dessus des autres. Voilà. L'auctoritas, c'est le pouvoir d'autoriser les autres, c'est-à-dire de leur déléguer des pouvoirs et de revêtir de votre autorité impériale les autres. L'imperium, c'est la puissance de commandement direct. Et la juridiction, c'est le fait de dire le droit. Voilà. Donc, en gros, la charte attribue à peu près tout au président. Chapitre 8. Modification de la charte. Les amendements à la charte peuvent être proposés par le Conseil exécutif, donc par le président, ou par au moins un tiers des États membres du Conseil de la paix agissant de concert. Les amendements proposés sont communiqués à tous les États membres au moins 30 jours avant le vote. Ils sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres du Conseil de la paix et après confirmation par le président. Donc le président a un droit de veto. Donc si ça diminue le pouvoir du président, il peut dire non. Les amendements requis au chapitre gnagnagna requièrent l'approbation unanime du Conseil de la paix et la confirmation par le président. Donc en fait, c'est toujours le président qui décide. les chapitres 2, il faudrait vérifier, mais chapitre 2, alors c'est 2, 3, 4, 5, 8, 10. Alors qu'est-ce qu'il disait déjà? Alors dans le 3, c'est les pouvoirs du président déjà, donc il faut l'accord du président pour changer les pouvoirs du président. La gouvernance aussi, la question des adhésions aussi, ouais, de toute la distribution des pouvoirs en fait. 4, 5, Ah, c'est marrant, il n'y a pas le 7 sur l'interprétation. Ils ont dû l'oublier. Dès que les conditions... Où il fallait en enlever un pour donner l'impression que ce n'était pas le président qui décidait tout. Dès que les conditions requises sont remplies, les amendements entrent en vigueur à la date indiquée dans la résolution d'amendement ou immédiatement si aucune date n'est précisée. Chapitre 9, résolution ou autre directive. Le président agissant au nom du Conseil de la paix est autorisé à adopter des résolutions ou autres directives conformes à la présente charte pour mettre en œuvre la mission du Conseil de la paix. Donc là encore des pouvoirs pour le président. Durée, le Conseil de la paix reste en fonction jusqu'à sa dissolution, conformément au présent chapitre, date à laquelle la présente charte prendra également fin. Condition de dissolution, le Conseil de la paix est dissous lorsque son président le juge nécessaire ou opportun. Alors, oui, ça, c'est là que j'ai pas compris. Le Conseil de la paix est dissous lorsque son président le juge nécessaire ou opportun, ou à la fin de chaque année impaire, à moins d'être renouvelé par le président au plus tard le 21 novembre de cette année impaire. Le Conseil exécutif établit les règles et procédures relatives au règlement de l'ensemble des actifs, passifs et obligations lors de la dissolution. Est-ce qu'il s'agit de s'accaparer des trucs quand on dissout le Conseil de la paix, de ne pas faire quelque chose qui risque d'échapper trop vite au contrôle, si jamais? Est-ce que c'est un garde-fou? Mon interprétation de cet article n'est pas nette. Chapitre 11 entrera en force. La présente charte entrera en vigueur dès lors que trois États auront exprimé leur consentement à y être liés. Je pense que nous y sommes. Les États tenus de clarifier, de ratifier, d'accepter ou d'approuver la présente charte par voie de procédure interne s'engagent à appliquer provisoirement ces dispositions, à moins qu'ils n'aient informé le président au moment de leur signature de leur impossibilité de le faire. Les États qui n'appliquent pas provisoirement la présente charte pourront participer, à titre de membre sans droit de vote, aux travaux du Conseil de la paix en attendant la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la charte, conformément à leur disposition légale interne, donc ça c'est pour, et sous réserve de l'approbation du président. D'accord, ça c'est pour les ratifications en interne par les parlements. Article 11 dépositaire, le texte original de la présente charte ainsi que tout amendement y afférent sera déposé au président des États-Unis d'Amérique, désigné par les présentes comme dépositaire de la présente charte. Le dépositaire fournira sans délai une copie certifiée conforme du texte original de la présente charte ainsi que de tout amendement ou protocole additionnel y afférent à tous les signataires de la présente charte. Chapitre 12, réservation. Aucune réservation ne peut être faite pour cette charte. Donc là, je comprends qu'en fait, vous êtes obligé de l'adopter en entier, donc avec tous les pouvoirs du président. Traquenard, chapitre 13. Alors, langue officielle du Conseil de la paix est l'anglais. Normal, c'est la langue du suzerain. Siège social. Le Conseil de la paix et ses entités subsidiaires peuvent, conformément à la charte, établir un siège et des bureaux extérieurs. Le Conseil de la paix négociera, le cas échéant, un accord relatif au siège et des accords régissant les bureaux extérieurs avec l'État ou les États hôtes. Donc, a priori, il n'y a pas de reine désignée pour l'instant. Le Conseil de la paix disposera d'un sceau officiel qui devra être approuvé par le président, en foi de quoi les soutenus ou autorisés ont signé la présente charte. Voilà ce que ça donne, ce texte. Je trouve ça hyper important, c'est pour ça que je vous en ai parlé, parce que ça me paraissait très clair qu'on est sur une transformation de la domination américaine mondiale. De manière assez logique, d'ailleurs, hein, dans la façon dont ça se fait. Alors, dans le cadre, naturellement, on va revenir sur un truc accessoire de ça, de la transformation absolutiste, qui est la transformation absolutiste elle-même des États-Unis et la volonté notamment des frontières naturelles, dont j'ai parlé lors de ma dernière émission. Alors, je ne vais pas revenir dessus en détail. Nous avons eu cette information de Donald Trump aujourd'hui après son intervention à Davos sur Truth Social. Je vous l'ai mis en traduction automatique. Suite à une réunion très fructueuse avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, nous avons établi les bases d'un futur accord concernant le Groenland et de fait l'ensemble de la région arctique. Cette solution, si elle aboutit, sera très avantageuse pour les États-Unis et tous les pays membres de l'OTAN. Compte tenu de cet accord, je renonce à appliquer les droits de douane qui devaient entrer en vigueur le 1er février. Donc les tarifs n'auront pas lieu. Donc ça va désarmer l'idée de bazooka européen. Vous savez, déjà, il y avait des hésitations à l'intérieur de l'Europe, de savoir si on mettait en place le mécanisme anti-coercition qu'a voulu activer Macron. Pour le coup, ça lui coupe l'herbe sous le pied. Des discussions complémentaires sont en cours concernant le Dôme d'Or et son lien avec le Groenland. De plus amples informations seront communiquées au fur et à mesure de l'avancement de discussion. Le président Jill Evans, le secrétaire d'État Marco Rubio, l'envoyé spécial Steve Witkoff et d'autres personnes, selon les besoins, seront chargés de négociations et me rendront compte directement. Je vous remercie de votre attention, comme d'habitude. Donc ça va avancer sur le Groenland. Sous quelle forme exactement, on attend de le voir. Mais la question, c'est de savoir exactement qu'est-ce que Mark Rutte a pu lui donner, parce que Mark Rutte, il n'a pas vraiment de pouvoir de négocier au nom des autres. Il a peut-être fait des suggestions qui ont été suggérées par un certain nombre de membres de l'OTAN, à voir. En tout cas, la situation évolue dans ce sens-là. Sur cette confrontation possible autour du Groenland, cependant, donc, qui semble s'apaiser, mais on va voir si elle redémarre. Je voulais quand même vous faire part d'un autre petit parallèle auquel j'ai songé, parce que ça me paraît éclairant. C'est, je pense qu'on peut faire un parallèle entre la situation entre l'Europe et les États-Unis aujourd'hui, avec justement la situation entre la Prusse et l'Empire d'Autriche dans les années 1860, c'est-à-dire au moment où l'Allemagne a voulu faire son... Alors si vous vous souvenez, les États allemands, ça ressemblait à ça. Donc vous aviez les limites de la Confédération germanique, qui avait été fondée au lendemain de des guerres napoléoniennes. Je vais essayer de vous agrandir ça, peut-être. Ça sera mieux, vous y verrez mieux. Voilà. Mais du coup, il faut que je me décale encore un peu plus. Oh, c'est dans l'autre sens. Coco, voilà. Donc à l'intérieur, vous aviez l'Empire d'Autriche lui-même qui dépassait. L'Empire d'Autriche, il allait bien sûr sur la Hongrie, etc. Simplement, ça n'était pas la partie qui était dans la Confédération germanique. Il n'y avait que l'Autriche. Ah, je crois qu'il faut que je vous le fasse. Voilà, c'est ici, l'Autriche. Et vous aviez la Prusse. Donc c'était les deux pôles, si vous voulez, de ce système-là. Et à l'intérieur, vous aviez des choses qui étaient un petit peu entre les deux. Et si vous faites le parallèle avec l'Europe aujourd'hui, ben, vous prenez l'Empire d'Autriche, donc... qui serait, d'après moi, l'Europe, et de l'autre côté, la Prusse, qui serait les États-Unis. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, comme la Prusse à ce moment-là, étaient en phase de mutation absolutiste. Et d'une certaine manière, Trump est un peu le Bismarck de l'Amérique de ce point de vue-là. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai redit, je crois que c'est la semaine dernière, ou lors de la dernière émission, la Prusse avait besoin, elle aussi, de faire ses frontières naturelles. C'est ce qu'elle a fait sous Bismarck. C'est-à-dire elle a bouché les trous qu'il y avait au milieu avec le Hanovre, le Holstein, le Mecklenburg, la Saxe, etc. En les annexant et en faisant l'Empire allemand, en fait, puisque tout ça c'est devenu ensuite l'Empire allemand. Hein. Et donc ce qui s'est passé, c'est que donc on était dans la Confédération germanique, on arrive dans les années 1860 et il y a une rivalité sur une partie de l'espace, parce que naturellement pour l'Autriche il y avait toute une partie, notamment la Bavière, le Württemberg, qui est la partie de l'Allemagne catholique en fait, qui était considérée comme un espace relevant de l'ère d'influence classique de l'Autriche, et donc il était hors de question que la Prusse se mette à dominer ça, n'est-ce pas, et ça a donné lieu à la guerre austro-prussienne, au cours de laquelle vous avez donc la Prusse et ses alliés, vous savez, c'est là qu'il y a eu la fameuse bataille de Sadova, au cours de laquelle la Prusse a pu expulser en fait la domination autrichienne et l'influence autrichienne, en mettant une branlée aux Autrichiens, tout simplement à Sadova, de tout l'espace que vous voyez en rose là, qui étaient les alliés de l'Autriche. Et à partir de là, ça a permis... Alors, est-ce que j'ai une carte de l'Empire allemand lui-même ? Voilà. Là, vous avez ce que ça a donné après, vous voyez ? Donc ça, c'est pendant la guerre. Donc vous voyez, il y avait des trucs qui étaient en rose en plein milieu de la Prusse. Et ensuite, dans l'Empire allemand, vous avez déjà le territoire de la Prusse qui s'est considérablement étendu parce que la Prusse a annexé tout un tas de trucs. Donc elle a bouché littéralement les trous qu'il y avait entre ses possessions est et ses possessions ouest. Des gens qui étaient des alliés, ben, certains ont été carrément annexés. Et les autres ont été fédérés, d'accord ? Notamment la Bavière, tout ça. Et donc c'est comme ça que l'Empire allemand a fait, en quelque sorte, ses frontières naturelles. Et donc pourquoi c'est intéressant ? Pourquoi je fais ce parallèle-là ? Parce que ce qui est très intéressant, c'est que encore une fois, vous reprenez la carte précédente, la Confédération germanique, c'était l'équivalent, pour les Allemands si vous voulez, de ce qu'est notre idée d'Occident aujourd'hui, c'est-à-dire l'OTAN d'ailleurs. C'est-à-dire celui dans lequel vous avez à la fois l'Amérique, les États-Unis, mais aussi le reste de l'Amérique du Nord, avec le Canada, et vous avez l'Europe de l'Ouest depuis longtemps, et une partie du reste de l'Europe qui s'est étendue au lendemain de la chute de l'URSS. Sauf que il reste qu'il y a deux pôles rivaux là-dedans. Vous avez le vieux pôle, on va dire, c'est l'Autriche, hein, et chez nous c'est l'Europe. Et de l'autre côté, vous avez le pôle jeune, celui qui est en train d'essayer, qui est en train d'entrer en phase absolutiste, qui à l'époque était la Prusse, et qui là est les États-Unis. Avec un rôle d'ailleurs où la Prusse était beaucoup plus, plus industrialisée, plus modernisée surtout, que l'Autriche. Et on est un peu dans ce même rapport avec les États-Unis. Si vous regardez depuis, en plus l'écart a tendance à se creuser. Si vous prenez en 2000, je suis allé chercher les chiffres, vous aviez le PIB américain, c'était environ 10 000 milliards de dollars, pardon, et l'Union européenne était à 7 000 milliards de dollars, un peu plus hein, dans les deux cas. Aujourd'hui, on est à pratiquement 30 000 milliards de dollars pour les États-Unis. Et pour l'Union européenne, on est à un peu moins de 20 000 milliards de dollars. Donc vous voyez que l'écart s'est creusé. C'était 1, c'était 40% supérieur à l'époque en 2000. Aujourd'hui, on est à 50 ou 60% supérieur. Donc l'écart s'est creusé. Vous avez eu une évolution. Donc ça, c'est sur le plan de l'économie. L'écart s'est creusé entre les États-Unis et l'Europe. Fortement. Au niveau de la population, vous avez une population qui était de moins de 300 millions d'habitants en 2000 pour les États-Unis et la population européenne qui était autour de 450 millions. Et aujourd'hui, vous avez une population européenne qui est toujours autour de 450 millions, mais une population américaine qui, elle, a monté à 350 millions, quasiment. Donc l'écart s'est réduit de démographiquement entre les États-Unis et l'Union européenne. Et enfin, dernier point, au niveau de l'âge médian, vous aviez en 2005, j'avais cherché ça, en 2005 c'était entre 35 et 36 ans pour les États-Unis et c'était 38 ou 39 ans pour l'Europe. Aujourd'hui les États-Unis sont montés à 39 ans mais l'Union européenne est montée à 44 ans d'âge médian. Donc l'Europe a vieilli beaucoup plus vite que les USA. Donc au niveau du dynamisme, si vous voulez, la question de savoir qui est la puissance qui est la plus jeune et la plus dynamique, c'est clairement les États-Unis qui ont le rôle de la Prusse. Alors donc pourquoi tout ça c'est intéressant? Parce qu'il y a eu une guerre. Il y a eu la guerre de 1866. Ils sont tapés dessus, alors qu'ils étaient ensemble depuis un moment, hein, dans la Confédération germanique. Depuis le lendemain, ça faisait 50 ans, depuis le lendemain des guerres napoléoniennes, qu'il n'y avait pas eu de guerre entre les deux. Ben, ils se sont tapés dessus pour ça. Parce que la Prusse voulait faire son unité et faire sa solution petite allemande de son côté, et que l'Autriche voulait pas. Mais, et c'est là que je fais un parallèle qui est important, c'est que au-delà de ça, et relativement rapidement, dans les 15 ans qui ont suivi, je crois que c'est en 1879, vous avez eu la mise en place de ce qu'on a appelé la duplice. La duplice, c'était... est-ce que je peux vous faire une carte de ça? Bon, en même temps, ça... La duplice, c'était justement... l'alliance militaire et la profonde intrication aussi économique entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, qui allait faire qu'ils allaient faire la guerre ensemble, la Première Guerre mondiale. Donc ça veut dire que malgré cette guerre fratricide finalement, qui est très courte en plus, et qui permet à l'Empire allemand de se faire tout en, en transformant en fait l'Autriche en partenaire junior, si vous voulez, ou en partenaire mineur de cette association, l'association a demeuré. Donc l'idée d'expliquer que même s'il y avait une confrontation, c'est la fin de l'OTAN, s'il y avait une confrontation entre les États-Unis et l'Union européenne, c'est même pas forcément vrai. En tout cas, c'est même pas forcément vrai à moyen terme. Au bout de 10 ans, les gens peuvent revenir en disant « Non, mais on n'aurait pas dû se taper dessus pour ça. » Ça dépend bien sûr dans quelle mesure vous êtes tapé dessus. Ça y était allé quand même. Donc on a quand même une marge là-dessus. Voilà, je voulais juste vous rajouter ce petit parallèle en complément de ce que j'ai dit l'autre jour. Je pense que je vais répondre aux questions qui ont été posées. Je ne sais pas si on a eu des questions d'hommes pendant la... Mais vous savez que là, il n'y a pas de live privé puisque c'est un live spécial. Donc je vais répondre aux questions que m'a retenu notre cher Hiromissime. Je vais déjà saluer les compagnons qui nous ont rejoints, les souscripteurs, je les remercie. Il y a eu Monsieur Renag, il y a eu Nico Intoufu, Matt Mitch, ça je crois qu'on ne l'avait pas salué la dernière fois parce qu'il était arrivé sous, comment dire, sur le fil au moment où je disais au revoir. Et nous avons également Emmanuel Martin qui nous a rejoint, ainsi que Darius Disnerowitz. Pour l'instant, alors je ne vois qu'une seule question qui a été retenue par mon cher Iruma, qui est en août, Alteris, ah oui, donc c'est une chaîne de l'histoire alternative, publie une anticipation avec deux scénarios, la soumission de l'UE et une domination de la loi du plus fort, ou le déclin des US et la recomposition des alliances mondiales. Qu'en pense Philippe? Je ne crois pas du tout à un déclin US. Encore une fois, on peut avoir une impression de déclin apparent US. En raison de certaines difficultés budgétaires, on va dire notamment, mais c'est typique d'un régime oligarchique en fin de course et qui est sur le point de faire sa transition absolutiste. Transition absolutiste au cours de laquelle il va centraliser tout un tas de se rendre capable tout simplement fiscalement de capter tout un tas de ressources qu'il n'avait pas avant et donc de dépasser cet obstacle-là. Donc a priori, je ne pense pas que ça fonctionne de cette manière-là. Attends, je vais vérifier sur le téléphone, parce que c'est peut-être mon... Ah non, Hiruma ne m'a rien envoyé de plus. Alors, attends de voir s'il y a des choses. Alors, il me dit il y a un sondage. Oui, mais je ne le vois pas, et je ne vois pas non plus le résultat. Alors, le temps que les gens posent les questions, je vais tout simplement faire le petit point rapide sur les choses qui se sont passées ces derniers jours, qui sont très importantes. Première actualité qui me paraît intéressante, c'est que la Turquie s'oppose publiquement aux velléités de changement de régime en Iran, en disant que ça serait un risque de déstabiliser la région, ce qui rejoint un truc que j'avais expliqué, je crois, dans le dernier bulletin, qui est que les Turcs, ils ont déjà gagné pas mal de ce qu'ils pouvaient espérer d'un reflux de l'Iran. Attendre plus encore un reflux de l'Iran, ça risquerait. Ils ont peut-être peur que ça crée des déstabilisations qui commencerait à poser plus d'inconvénients que d'avantages, que le contraire. Ensuite, il y a eu un accord syrien avec les forces kurdes qui offre vraisemblablement à la Russie, à la Turquie, une victoire stratégique qu'elle attendait en fait depuis des années. Je fais un petit rappel, début janvier, il y a eu des affrontements violents qui ont commencé à Alep entre les quartiers kurdes, l'armée syrienne, donc d'armée d'Al-Shara, et les forces démocratiques syriennes, no donc notamment les YPG kurdes. Il y a eu des combats. Mi-janvier, donc l'offensive gouvernementale s'est rapidement étendue dans l'Est où ils ont pris plusieurs villes. Il y a eu l'annonce d'un premier accord de cessez-le-feu le 18 janvier avec médiation américaine qui prévoyait l'intégration progressive des institutions et combattants de kurdes dans l'État syrien, ce qui avait déjà été décidé en mars dernier, mais ça n'avançait pas. Également la remise des champs pétroliers, des passages frontaliers et surtout la prise en charge des prisons et camps de l'État islamique par Damas elle-même. Le cessez-le-feu était cependant fragile, il y a eu des reprises de combats localisées, et entre le 20 et 21 janvier, il y a un nouveau cessez-le-feu qui vient d'être annoncé, donc d'une durée de 4 jours, où Al-Shara donne un ultimatum aux Kurdes, ils doivent proposer un plan d'intégration pacifique de la province de Hasakeh dans les 4 jours, sinon ça sera la poursuite des opérations qui sont soutenues notamment, vraisemblablement avec du renseignement notamment, par l'armée turque. Et donc très clairement, c'est un succès parce que pour la Turquie, parce que son État syrien qu'elle reconstitue comme État vassal finalement, est en train de se réimposer. Les États-Unis ont quant à eux réduit leur soutien aux forces démocratiques syriennes. Donc Erdogan, lui, il est très content. Et les Américains et les Français et les Britanniques ont mené des frappes ces derniers temps contre l'État islamique, mais c'était lié au contexte. Voilà, la situation n'est pas réglée, mais clairement, ces pauvres Kurdes sont sur le reculoir. Un point sur un autre front sur lequel il y a eu Donald Trump a essayé de faire la paix justement, et visiblement, bon, ça avance dans le bon sens, puisque les rebelles au mois de décembre avaient continué à avancer dans la ville d'Uvira, dans l'est de la RDC. Et après le retrait des combattants, de l'AFC, donc du mouvement du M23, qui est soutenu par le Rwanda, les forces donc congolaises ont repris le contrôle de la ville. Elles avaient annoncé qu'elles se retireraient, les forces du M23, en décembre, mais ça n'avait pas été le cas jusque-là. Là, ça y est, ils se sont retirés. Les États-Unis ont annoncé l'interception d'un septième pétrolier vénézuélien dans les Caraïbes, mais j'ai pas réussi à trouver s'il y avait des liens avec la Russie sur ce point-là. Dernière chose sur laquelle dont je voudrais parler, parce que ça me paraît important pour le coup, possibilité de crise en Europe. C'est arrivé cet après-midi. Le Parlement européen, vous savez que il y a eu la signature du Mercosur, il y avait une volonté de ratification, mais Angela Merkel, Ursula von der Leyen voulait le faire appliquer tout de suite, à titre provisoire, mais en se disant que de toute façon, ça sera adopté bientôt. Et en fait, le Parlement européen bloque l'accord du Mercosur. Ça s'est joué à 10 voix près, en fait. 334 voix pour. Décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. C'est la deuxième fois que le Parlement saisit la Cour de justice de l'Union européenne contre la Commission. La première fois, c'était sur le mécanisme SAFE de Rearm Europe. En fait, Ursula von der Leyen vient donc de se manger un vote majoritaire contre elle. Alors, très honnêtement, si les motions de censure étaient à la majorité simple, je pense qu'on aurait déjà fini par en voir une qui aurait fait tomber von der Leyen. Von der Leyen est protégée par le fait qu'il faut voter aux deux tiers et que c'est quasiment impossible à faire. Mais là, c'est une claque et ça risque de radicaliser des positions et ça pourrait donc mettre en place une crise aussi à l'échelle de l'Europe. Et il faut savoir que de l'autre côté, le Parlement européen avait bloqué l'accord commercial avec Donald Trump également en raison de la question du Groenland. Mais là aussi, on va voir comment ça va évoluer vu qu'apparemment, il a suspendu les tarifs. Donc peut-être que la situation va s'apaiser. Voilà pour les petits rappels, les petites actualités. Désolé, c'est un bulletin light, mais c'est pour pas trop. Tiens, je vais remettre l'estampe japonaise, c'est joli, c'est apaisant. Je voulais pas trop léser ceux qui sont privés du bulletin parce que, grâce au fait qu'ils acceptent d'être privés de bulletin, vous avez eu ce live spécial ce soir. J'espère qu'ils l'auront quand même apprécié. Oui, donc il y avait un sondage. La France devrait-elle rejoindre le Conseil de la paix de Trump? Oui, 45%. Non, 33%. Pas d'opinion. Je ne vois pas combien ça fait. Mais oui, 23%. Moi, très honnêtement, j'ai envie de dire oui, il faut signer. Parce que, bon, certes, on perdra notre statut de l'ONU, mais de membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais encore une fois, si vous observez la dynamique historionomique normale, vous ne pouvez pas espérer qu'un système reste perpétuellement un système oligarchique. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez forcément des transformations qui ont lieu. Et le fait que ces transformations, on les voit se produire, et même qu'on les voit se produire d'une manière, encore une fois, que j'avais suggéré il y a 20 ans, à l'époque où j'avais encore une vision très floue des modèles, encore une fois. Mais ça, c'était déjà assez net pour que simplement faire le parallèle, essayer de faire une adaptation, comme je vous disais, en partant de ce qu'avaient fait les Romains, on tombe sur quelque chose d'avoisinant. On est sur du nécessaire là, et donc l'histoire va dans ce sens. Encore une fois, peut-être que ça sera pas là, peut-être que ce Conseil de la paix, moi je pense que ça va marcher, je pense qu'il va réussir son coup, je sais pas encore comment, mais je pense qu'il y a des gens qui vont s'y rajouter. Si vous avez une guerre qui commence, c'est pas impossible que ça pousse des gens à venir se réfugier dans les jupes américaines et donc à dire d'accord, on signe, on est bon, voilà, faites ce que vous voulez, protégez-nous. Donc je pense que ça va aller dans ce sens là Et que naturellement, si vous voulez être un daimyo fudai, toujours pareil, il vaut mieux être là au début et signer au début. Voilà. Si vous faites partie de ceux qui résistent jusqu'au dernier moment, ça va être plus compliqué. Alors ensuite, Dr Sherlock, quel move le plus avantageux pour la France? Sur ce truc-là, moi je dirais que c'est ça. C'est qu'il faut aller dans ce sens-là, très honnêtement. Sur le Groenland, moi je vous ai déjà expliqué ce que j'en pensais. Je pense qu'on est allé trop vite, trop loin. Qu'on se présente, je veux dire, en plus, il y a vraiment un côté forceur, quoi. Il y a vraiment le côté forceur du on est la France et on veut utiliser le fait qu'on est une puissance militaire dans le continent pour prendre plus de place à l'intérieur de l'Europe. Et donc, je pense que c'est non seulement un mauvais calcul par rapport aux États-Unis eux-mêmes, mais même, je pense, en interne en Europe, ça ne plaît pas aux Allemands, Je pense que c'est le genre de choses qui peut leur faire peur. À la fois, ils peuvent se dire qu'il faut résister sur le Groenland, mais en même temps, ils veulent pas. Enfin, imaginez les Allemands laisser les Français prendre plus d'influence en Europe, c'est compliqué. Donc, je pense que tout ceci a manqué de prudence. Et encore une fois, j'ai déjà dit quels étaient, à mon avis, les motifs d'Emmanuel Macron là-dedans. Donc, le move le plus avantageux pour la France, à mon avis, ce serait d'être plus prudent sur la question du Danemark, plutôt sur une ligne comme celle de Mélanie, d'ailleurs, qui est d'ailleurs d'autant plus intelligente que, semble-t-il, d'après le message de Trump sur Truth Social, il n'est pas impossible qu'on arrive à une solution dans le cadre OTAN, ce qui était ce que Mélanie avait suggéré. Hein, donc plutôt que d'aller gueuler tout de suite, de manière générale, il faut faire ce que fait Mélanie, d'après moi. Et voilà. Expat Dalmat, si l'OTAN tient le rôle de la duplice, qui tiendra le rôle de la France dans la guerre à venir? Alors, qui tiendra le rôle de la France dans la guerre à venir? Genre guerre de 70, ça je sais pas. Je sais pas si on peut filer, je sais déjà même pas s'il est pertinent de filer le truc jusque-là. Moi j'ai essayé surtout de démêler, parce que une des choses qui ont fait que je m'inquiétais de cette situation autour du Groenland, c'était sur la question de la division de l'Occident, parce que je pense que l'Occident ne peut pas non plus se permettre d'être totalement divisé. On est un bloc civilisationnel et notre place dans le monde est aussi conditionnée au fait qu'on arrive à rester unis dans ce bloc-là. Donc ça m'inquiétait le fait qu'on puisse se disputer là-dessus. Et donc ce que j'ai trouvé intéressant dans le cas austro-prussien, c'est que le fait de se diviser à un moment dessus n'empêche pas le fait d'être malgré tout unis sur la durée, pour des raisons justement de proximité culturelle. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut projeter forcément tous les éléments très stratégiques, mais peut-être que des amis historiens vont y réfléchir. Carciofo, est-ce qu'Elon Musk pourra devenir président du Conseil de la paix sans être né américain? C'est possible. Oui, pour le coup, puisque a priori ça poserait pas de problème là-dessus. Bon, pour l'instant, Elon Musk n'est pas là, mais vous savez, on a vu déjà, je crois que je l'ai dit l'autre jour, certaines choses qui vont dans le sens de ce que j'avais annoncé. Vous avez Pete Hegseth qui a reçu Elon Musk et qui a dit que Grok allait être intégré dans un certain nombre d'équipements militaires américains. Donc, entre ça, le Golden Dome, etc., je pense que le rôle des entreprises d'Elon Musk dans l'effort de guerre américain va être de plus en plus important, et donc il va prendre un poids très important. Bon, après, si Elon Musk est le Crassus moderne, ça va mal se finir pour lui, mais encore une fois, vous savez, j'aime pas trop faire des parallèles strictement sur des individus. Iruma, les humains... Iruma, c'est parce que les gens te posent la question à chaque fois que je me trompe, je lis. Les humains ont-ils besoin d'un empire planétaire pour conquérir son système solaire? Non, ça je pense pas. Je pense même que les deux choses seront toujours décorrélées. Combien de temps pour que l'Union européenne explose? Je suis pas sûr qu'elle va exploser, mais à partir du moment où si elle entre en révolution nationale, ça risque d'être une explosion partielle, puisque les révolutions nationales sont souvent un éclatement au moins partiel. Pensez à l'URSS en 1991. Donc, à voir. Yugi Bembem qui demande Trump et donc Auguste et non l'un des Gracques. Comme j'ai dit, aux États-Unis, les choses vont plus vite qu'à Rome, hein, de toute façon. Donc on est peut-être déjà sur cette transition-là. Oui, ça n'empêche pas forcément. Mais encore une fois, peut-être qu'on est aussi dans une espèce de pré-tentative et que c'est que dans 10 ans, finalement, que quelqu'un arrivera à mettre en place quelque chose comme le Conseil de la paix. Et à ce moment-là, les historiens diront que le Conseil de la paix de Donald Trump aura été le précurseur de ce truc qui arrivera plus tard. Ça relève des si vous voulez, la nécessité, c'est la direction, toujours. Le fait d'y arriver tout de suite ou dans 10 ans, ça, c'est difficilement prévisible. Susan Darber, l'Europe est en plein nation building à cause des impulsions très coloniales de Trump. Quelle place a une opposition de l'Europe pour asseoir sa domination sur les USA qui sont au bord de la guerre civile, rappelons-le? Non, ça, je pense que ça n'arrivera pas. Je fais toujours mes parallèles, vous savez, dans l'Antiquité. Rome a achevé de prendre le contrôle de la Grèce et une partie du Proche-Orient juste en sortant de ses propres guerres civiles. Donc la guerre civile n'est pas forcément une cause d'affaiblissement intérieur. Ça peut même être juste le prélude à une remise en ordre avant d'avoir une capacité très importante extérieure. Et ensuite, que me montre... si, ça, je l'ai cité... Iruma, c'est le message de Trump sur Truth Social. Voilà, donc il n'y a pas encore d'accord. Disons que c'est semble-t-il, la négociation sur le futur deal. Et Mark Rutte va essayer de mettre de l'huile dans les rouages au niveau de l'OTAN pour faire passer le truc, visiblement. Mais à voir encore ce que c'est exactement. Bien, voilà tout ce que j'avais à vous dire ce soir, je pense. Encore une fois, bienvenue. Je ne sais pas combien vous étiez au total ce soir. Je ne sais pas où on en est sur les pouces. N'hésitez pas à en rajouter si vous n'en avez pas mis. Je crois qu'on avait à peu près 500 personnes. C'est pas mal. J'espère que les vues vont croître. Parce que, encore une fois, il faut voir si les nouveaux abonnés sont aussi assidus que les anciens. Ça me ferait plaisir, naturellement, si c'était le cas. Si vous avez découvert l'émission via les... je pense que statistiquement, ça doit être le cas. Via les promos que j'ai faites, donc que vous avez vu à la base un sponsorisé. Honnêtement, si vous avez vu ça par ça, vous avez dû arriver par la vidéo qui était ma conférence à l'université à Toulouse, les risques de guerre selon la guerre en Europe selon les modèles historiques. Donc, si vous pouvez juste me le dire en commentaire que vous êtes arrivé par là, ça m'aiderait à me renseigner dans mes stats et à savoir comment les choses fonctionnent. Voilà, je vais regarder quand même, jeter un dernier coup d'œil, voir si on a des gens qui ont fait coucou sur Tipeee par exemple. Je ne vois pas mes. Là, c'est pas là. Ah oui, c'est là. Non, c'est pas là non plus. C'est là. C'est pas non plus là. C'est d'ici, très bien. Ok, donc non, pas sur Tipeee. Et est-ce que sur YouTube on a des gens? De toute façon, je vous rappelle que je vous avais mis l'offre en. Je vais vous la réafficher ici d'ailleurs. Pour souvenir que si vous voulez nous soutenir, vous avez tout un tas de contreparties qui sont disponibles si vous venez, qui sont ici. C'est tous les rangs et ce à quoi ça vous donne accès sur la chaîne. Et pendant ce temps, je vais voir si on a des nouveaux qui sont arrivés. Souscripteurs, en dehors de ceux qui ont été mentionnés. Non, je pense que notre cher Iruma a été excellent pour tenir le compte. Donc merci à tous. Et encore une fois, maintenant, les souscriptions pour avoir accès aux contreparties, ce sera exclusivement sur YouTube. Sur Tipeee, vous pouvez faire des petits dons accessoires ponctuels, ou des gros dons d'ailleurs, comme vous voulez. Ça vous fait plaisir. Mais les contreparties, pour y avoir accès, c'est exclusivement via YouTube. Voilà ce que j'avais donc à vous dire pour ce soir. Donc je pense, alors vendredi ou samedi, je ne sais pas encore quand tu auras l'émission, ça sera vraisemblablement un super live privé des abonnés, sauf si jamais il y avait vraiment une actualité brûlante au niveau des 49.3 gouvernementaux sur le budget, mais je ne pense pas que ce sera le cas. Et si vous voulez connaître mon avis, vous pouvez aller voir Berkoff sur le vif dans l'émission d'hier à midi. Il faudra que j'essaie de mettre le lien sur ma propre chaîne. J'ai été interviewé par André Berkoff sur sa chaîne. Et donc je lui ai répondu, je lui ai donné mon avis donc sur la séquence avec le cornu et justement l'arrivée de ce 49.3. Mais c'est pas le sujet de ce soir. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouveaux formats. Et d'ici là, ne vous laissez point faire. Je vous fais coucou ici.